RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'heure suivante, magazine culturel, qui sera suivi par Apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Les Nations Unies considèrent que la mise en œuvre des droits de l'homme en Indonésie progresse. L'économie créative devient le thème du 70e anniversaire des relations et diplomatiques entre l'Indonésie et l'Italie. L'ONU insiste, l'Indonésie a approuvé le projet de loi sur les peuples autochtones et l'élimination de la violence sexuelle. L'Indonésie et l'Iran ont un énorme potentiel de coopération bilatérale. Le gouvernement indonésien invite les représentants de l'ONU à visiter la Papouasie. Et enfin, les États-Unis exemptent la taxe d'importation sur les produits des panneaux solaires de l'Indonésie. Voici le journal complet. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme estime la mise en œuvre des droits de l'homme en Indonésie jusqu'à présent à des progrès significatifs. On peut voir ces progrès par les efforts du gouvernement indonésien dans la réalisation des droits universels à la santé de la population et inclusion des objectifs de développement durable dans le plan d'action national pour les droits de l'homme. En outre, l'existence de la Commission nationale des droits de l'homme, ou Komnas HAM, et la Commission nationale des femmes, ou Komnas Perempuan, qui sont fortes et indépendantes, est également l'un des facteurs qui soutiennent les progrès de la mise en œuvre des droits de l'homme en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zaid Ra'ad Al-Hussein, lors d'une conférence de presse tenue au bureau de représentants des Nations Unies à Jakarta le 7 février 2018.
The government has embraced the Sustainable Development Goals, incorporating them.
Le gouvernement a adopté les objectifs de développement durable en les intégrant dans le plan d'action national pour les droits de l'homme. L'Indonésie a également fait des progrès considérables dans la réalisation du droit à la santé et élargir la couverture sanitaire universelle. L'État a fourni l'espace et les ressources pour que la Commission nationale des droits de l'homme et la Commission nationale des femmes puissent devenir les institutions nationales des droits de l'homme étant fortes et indépendantes. Outre les progrès de la mise en œuvre des droits de l'homme dans le pays, Zaid Ra'ad Al-Hussein a également souligné le rôle de l'Indonésie dans la mise en œuvre des droits de l'homme en Asie du Sud-Est. Selon lui, l'Indonésie est le pays le plus progressiste en Asie du Sud-Est lié à la mise en œuvre des droits de l'homme. Ceci est attesté par la participation active de l'Indonésie dans les mauvaises conditions vécues par les musulmans Rohingyas à Rakhine, le Myanmar. L'année 2019 est une année importante pour les relations diplomatiques entre l'Indonésie et l'Italie. Les deux pays commémorent leur relation diplomatique qui dure depuis 7 décennies ou 70 ans. Pour commémorer la 70e relation diplomatique, les deux pays ont convenu de soulever le grand thème de l'économie créative. La sélection de grands thèmes de l'économie créative basée sur la similitude des deux pays dans ce secteur. Cela a été dit par le ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, Retno Marsudi, lors de la conférence de presse, après qu'elle a rencontré le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano.
Italia memiliki kekuatan di dalam ekonomi kreatif. Kita memiliki talenta yang banyak untuk ekonomi kreatif.
L'Italie a un pouvoir dans l'économie créative. Nous avons beaucoup de talent pour l'économie créative, donc nous sommes d'accord pour prendre l'économie créative comme thème pour notre 70e anniversaire des relations diplomatiques avec l'Italie. Retno Marsudi a déclaré que les micro, petites et moyennes entreprises sera également réalisé à l'occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et l'Italie. Les deux pays ont des similitudes dans lesquelles le secteur de l'économie nationale est soutenu par les MPME. Par conséquent, les deux pays encourageront la coopération liée aux MPME. Le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, a visité l'Indonésie lors d'une série de visites de travail en Asie du Sud-Est, et l'Indonésie a été le premier pays visité avant d'autres pays. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme insiste le gouvernement indonésien à approuver immédiatement le projet de loi sur les autochtones et l'élimination de la violence sexuelle. Les deux projets de loi sont importants pour être ratifiés immédiatement afin que les droits des autochtones et les victimes de violences puissent être protégés. C'est ce qu'a déclaré par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, lors d'une conférence de presse tenue au bureau de représentation des Nations Unies à Jakarta le 7 février 2018. Il y a deux importants projets de loi qui ont été présentés au Parlement pour reconnaître et protéger les droits des autochtones et fournir une protection essentielle aux victimes de violences sexuelles et la violence de genre. J'insiste que le Parlement a adopté immédiatement ces importants projets de loi. Zeid Ra'ad Al-Hussein insiste également que le gouvernement indonésien a rejeté les demandes d'amendements à la loi, en particulier le code pénal qui a le potentiel d'encourager la discrimination parmi les Indonésiens, en particulier les pauvres et les marginalisés. Selon le diplomate jordanien, si cet amendement est fait, les efforts du gouvernement indonésien pour atteindre les objectifs de développement durable seront plus efficaces. L'Indonésie et l'Iran ont une longue histoire de coopération bilatérale qui doit être maintenue continuellement. La coopération bilatérale fonctionne bien jusqu'à nos jours. Il a été déclaré par l'ambassadeur de l'Iran en Indonésie, Waliullah Muhammadi, dans une interview spéciale avec la Voix d'Indonésie, l'ambassade iranienne à Jakarta mardi. Il a déclaré que les deux pays continuent d'explorer les avantages de la coopération entre le gouvernement et le secteur privé.
The potential in two countries is huge. We must work more for use this.
Le potentiel dans deux pays est grand. Nous devons faire cette coopération pour les bénéfices des deux pays. Comme par exemple pour l'activité scientifique, nous avons beaucoup de domaines de coopération, par exemple la nanotechnologie. Nous avons une autre connaissance, vous avez une autre connaissance que nous pouvons l'utiliser. Je peux vous dire que les deux pays peuvent compléter mutuellement dans la coopération économique. En outre, l'ambassadeur Waliullah Muhammadi a également expliqué que l'Indonésie et l'Iran avaient exporté et importé des marchandises. Il a souhaité que les deux pays renforcent leur coopération dans de nombreux secteurs tels que le tourisme, l'éducation et la technologie. Le gouvernement indonésien a invité le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à se rendre en Papouasie pour constater la situation là-bas, en particulier la mise en œuvre des droits de l'homme dans la région orientale de l'Indonésie. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, lors de sa conférence de presse au bureau des représentants des Nations Unies à Jakarta mercredi, a affirmé Cette invitation avait été transmise lors de sa rencontre avec des hautes responsables indonésiens à Jakarta.
I also hope my visit will set the stage for strengthened cooperation.
J'espère également que ma visite est devenue une étape pour renforcer la coopération entre mon bureau et le gouvernement et le peuple indonésien. Au cours de notre discussion des deux derniers jours, le gouvernement d'Indonésie nous a invités à visiter la Papouasie et nous enverrons bientôt une mission. Je remercie le gouvernement pour son invitation. Zaid Ra'ad Al-Hussein a ajouté qu'il ne pouvait fournir d'autres informations sur l'envoi de mission en Papouasie. La visite du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zaid Ra'ad Al-Hussein en Indonésie, fait partie de sa visite dans plusieurs pays des régions d'Asie et du Pacifique. Au cours de sa visite des deux jours en Indonésie, du 5 au 7 février 2018, Zaid Ra'ad Al-Hussein a rencontré des hauts responsables indonésiens, y compris le président indonésien Joko Widodo, la Commission nationale des droits de l'homme ou Komnas HAM, la Commission nationale sur la violence contre les femmes, les organisations non gouvernementales et les chefs religieux pour discuter des questions des droits de l'homme en Indonésie. En outre, Zaid Ra'ad Al-Hussein était conférencière à la Conversation internationale de Jakarta sur les droits de l'homme tenue par le ministère indonésien des Affaires étrangères en commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de 25 ans de déclaration et de programme d'action de Vienne. Le directeur général du commerce extérieur, Oke Nurwan, a affirmé que le gouvernement des États-Unis avait émis une décision de libérer l'Indonésie de l'imposition de la taxe d'importation de mesures de protection du commerce contre les importations de panneaux solaires ou de cellules au silicium cristalline photovoltaïque ou TSPV. Cette décision a été prise le 24 janvier 2018 parce que les panneaux solaires indonésiens n'ont pas provoqué les importations montées subites de produits similaires aux États-Unis. Cette décision est appliquée parce que la grande part de marché des panneaux solaires importés en provenance d'Indonésie est toujours assujettie à des conditions résistant les mesures commerciales. C'est ce qu'a affirmé Oke Nurwan à travers un communiqué de presse du ministère du Commerce mercredi. Il a déclaré que la part de marché des panneaux solaires indonésiens aux États-Unis était encore inférieure à 3%, alors que les accords sur les mesures de sécurité commerciale de l'OMC, qui est en vigueur à l'article 9, stipule que les pays en développement avec une part de marché des importations de moins de 3% individuellement ou moins de 9% devraient collectivement être exclus de cette action. C'est le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « La simplification de la réglementation stimule les activités du secteur pétrolier et gazière ». Pour stimuler les activités du secteur pétrolier et gazière, le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, ou ESDM, élabore 32 règlements dans le secteur du pétrole et du gaz. Cet effort pour stimuler l'investissement, augmenter la croissance économique et créer beaucoup d'emplois. Cette politique est distribuée dans les sous-secteurs du pétrole et du gaz, les minéraux et le charbon, l'électricité, les énergies nouvelles et renouvelables et la conservation de l'énergie. En outre, le ministère simplifie également la réglementation relative aux activités commerciales de l'unité spéciale pour les activités pétrolières et gazières en amont, ou SKK Migas. Cette étape est un effort du gouvernement pour éliminer les obstacles qui ont été une pierre d'achoppement, en particulier pour les entrepreneurs. Ainsi, l'investissement devrait croître comme prévu par le gouvernement et la population. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales et SDM, Ignatius Jonan, a déclaré que le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, continuera à mettre en œuvre la stratégie afin que le secteur des affaires devienne de mieux en mieux. Les efforts visant à faciliter les investissements par la révocation ou la simplification des réglementations et des licences continueront d'être encouragés. Des 32 règlements révoqués, 11 proviennent du secteur pétrolier et gazier. Le secrétaire général de l'ESDM, Ego Charial, a expliqué que certaines hommes d'affaires se sont plaints de certaines réglementations non pertinentes qui doivent être simplifiées. Pendant ce temps, les règlements ESDM qui ne sont pas révoqués couvrent le dérivé du mandat de la Constitution sur la gestion des ressources naturelles autant que possible pour le bien-être du peuple indonésien. Le chef de SKK Migas, Amin Sunaryadi, a déclaré qu'il y avait un certain nombre de facteurs qui entravent le taux d'investissement du secteur pétrolier et gazier en amont. Il y a encore un investissement en attente ou non réalisé aujourd'hui en raison de problèmes d'exploration pour trouver des réserves de pétrole. Les causes sont entre autres en plus des prix mondiaux du pétrole à bas prix aujourd'hui, aussi de l'impact de la réglementation. Amin Suryadi a expliqué, le gouvernement a publié un nouveau règlement qui devrait apporter de l'air frais pour l'investissement dans le secteur pétrolier et gazier. Le gouvernement poursuit une croissance économique de 5,5% en 2018, de sorte que tout est fait par les parties prenantes pour stimuler divers secteurs. La révocation de 32 réglementations qui entravent l'accélération économique, notamment dans le domaine du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables, est une option considérée comme importante aujourd'hui, surtout dans la réalisation de la cible de la croissance économique. Bien que les indicateurs macroéconomiques s'améliorent maintenant, la réalité est que ceci n'est pas compensé par une croissance économique élevée. L'existence de la politique de simplification de la réglementation pourrait stimuler les activités de l'investissement antérieur. Secrétaire, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 8 février 1979, Denis Sassou Nguesso est devenu président de la République populaire du Congo pour la première période. Lors des élections multipartites en 1992, Denis a perdu. Il est revenu au pouvoir en 1997 après le renversement du président Pascal Lissouba. Il a ensuite remporté l'élection présidentielle en 2002. Il a été réélu à l'élection présidentielle en 2009. Le 8 février 1971, la première bourse électronique où Nasdaq est ouverte aux États-Unis. Nasdaq, ou l'Association nationale des cotations automatisées des courtiers en valeur mobilière, est une bourse opérée par l'Association nationale des négociants en valeur mobilière. Quand il a commencé le commerce le 8 février 1971, le Nasdaq était la première bourse électronique au monde. Depuis 1999, Nasdaq est la plus grande bourse d'Amérique. Plus de la moitié du nombre des sociétés négociées aux États-Unis sont enregistrées. Le Nasdaq se compose du Nasdaq National Market et du Nasdaq Small Cap Market. Ses principaux bourses sont situées aux États-Unis avec des succursales au Canada et au Japon. Nasdaq a également des associations des bourses à Hong Kong et en Europe. En 17 juillet 1995, le Nasdaq a clôturé à un niveau supérieur à un millier de points pour la première fois. le pic est survenu le 10 mars 2000 où l'indice atteint 5,08,62 points. Le Nasdaq a été fermé du 11 au 14 septembre 2001 en raison d'une attaque terroriste. Le 8 février 1904, la bataille navale de Port Arthur. La bataille de Port Arthur est la bataille d'ouverture entre la Russie et le Japon, commencée le 8 février 1904 par l'attaque soudaine dans la nuit par l'escadron de destroyers japonais contre la flotte russe au Port Arthur en Mandchourie et suivie par une grande bataille le lendemain matin. La bataille est terminée sans résultat concret. Et les petites batailles autour de Port Arthur étaient poursuivies jusqu'en mai 1904. Lors de la guerre, le Japon a déployé 15 navires de guerre et des croiseurs. Le nombre de morts de la part du Japon est 90 personnes, tandis que la Russie a déployé 12 navires de guerre et des croiseurs avec les compagnons. Le nombre de morts dans la partie russe est 150 personnes et 7 navires endommagés. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée « Le président reconnaît qu'il y a eu des progrès significatifs dans la gestion des incendies de terrestres et des forêts ». Lors de la réunion de coordination sur la gestion des incendies de terre et des forêts 2018 mardi, le président Joko Widodo a réaffirmé l'engagement des gouverneurs, régents, maires, chefs militaires et les chefs de police dans la région respective pour protéger leur territoire afin de ne pas brûler. Le président a déclaré que les incendies de terre et des forêts pouvaient être évités si toutes les parties travaillent ensemble afin que ce ne soit plus une catastrophe nationale et il ne soit plus l'attention du monde international. Concernant les incendies de terre et des forêts 2015, le président a grandement apprécié en 2 ans qu'il y a eu un progrès significatif dans la gestion. Il y a une réduction très importante dans les points chauds. En 2015, le nombre de points chauds a atteint plus de 21 000. En 2016, a chuté à plus de 3 900 et en 2017, a chuté environ 2 560 points. Il a déclaré que lors du sommet asiatique, le premier ministre malaisien et singapourien se plaignait de la fumée. Mais cette année, l'Indonésie a reçu l'appréciation des deux pays. En 2017, on a été construit le système de détection précoce de la prévention des incendies de terre et des forêts ou Karhutla. Dans ce système, on présente les données hotspots quotidiennes et la carte des zones sujettes aux incendies. Le public peut accéder à travers la page sipongi.menlhk.go.id. En outre, il a également construit un système intégré entre les parties dans la manipulation de Karhutla. Le ministre de l'Environnement et des Forêts, en collaboration avec l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique, et aussi l'APAN, ou Institut national de aéronautique et de l'espace, pour faciliter la détection et la surveillance. Le gouvernement local et les acteurs du monde des affaires ont mené des efforts de prévention des incendies avec des procédures opérationnelles standard, ou SOP, déterminés en termes d'installation et de personnel, technique d'ouvrir des terres non brûlées. Il crée une société de protection contre les incendies afin que les gens soient conscients de l'importance des efforts auto-prévention. Chers amis, c'était Modernésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous continuons notre émission avec le Magazine Culturel. Introduisant un site touristique à l'île de Madura. Donc restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. L'Indonésie en tant que pays maritime a une longue côte étirée, donc il est naturel que l'Indonésie a beaucoup de belles plages. Certaines d'entre eux, comme celui de Bali, à savoir Kuta et Sanur, sont déjà célébrés aux pays étrangers. Mais il y a aussi quelques plages cachées avec une beauté charmante. L'un d'entre eux est la place de Sirin Kemuning à Madura, précisément au village Mekaja dans le sous-district Tanjung Bumi, à environ 41 km au nord de la ville de Bangkalan. Comme son nom indique, la place de Sirin Kemuning est un jeu jotre. Contrairement aux plages de sable blanc en général, le sable blanc à cet endroit semble un peu jaunâtre, non seulement le sable qui semble coloré, mais les vagues qui balayent la plage semblent également jaunâtres. Le mot Kemuning est en fait dérivé de la langue japonaise. Très probablement, la couleur de la place jaunâtre qui est devenue l'origine de ce nom de place Sirin Kemuning. Si vous êtes à Bangkalan Madura, vous voulez profiter de la beauté de la place Sirin Kemuning, vous pouvez utiliser des véhicules privés ou de location, des voitures ou des motos. Vous pouvez également utiliser des transports publics pour un coût de seulement 8000 rupiah. Vous pouvez passer par l'autoroute à deux voies qui est de l'ouest vers l'est et du centre vers le nord avec un temps de trajet d'environ 1 jusqu'à 2 heures. Au moment où vous traversez la voie de centre, vous pouvez également profiter du beau paysage. De Surabaya, vous pouvez utiliser des routes terrestres et des routes maritimes. Du port Tanjung Perak à Surabaya, vous pouvez prendre un ferry pour Madura. Si vous utilisez la route terrestre, prenez une voiture de Surabaya à travers Suramadu. Pour y aller, il faut encore parcourir plus au moins 64 km. Vous pouvez entrer à la place de Sirin Kemuning sans payer, mais vous devez payer le stationnement 7000 rupiah pour la moto et 10000 rupiah pour la voiture. Bien qu'il n'y ait pas encore d'installation à la place Sirin Kemuning, vous pouvez toujours profiter de la beauté de cette place. L'atmosphère est fraîche en raison des nombreux arbres et le sable blanc jaunâtre, ainsi que la rose comme décoration, ajoutant à la beauté de paysage de cette plage. Bien que les vagues sur cette plage ne soient pas trop grandes, les visiteurs peuvent nager doivent toujours faire attention, surtout pour les enfants et les visiteurs qui sont moins adeptes de la natation. comme la place en général, le climat sur la place de Sirinkemuning est très chaud. Donc n'oubliez pas d'apporter de la crème solaire et des lunettes de soleil pour protéger votre corps et vos yeux du soleil. Après avoir fatigué des yeux et profité de la beauté de la plage de Sirinkemuning, vous pouvez déguster le rujak lontong, la cuisine typique de Bangkalan vendue autour de la plage de Sirinkemuning. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le programme Ma langue ou Bahasaku comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province des Moluques afin de connaître plus loin la langue Hitu. En plus d'être riche en produits naturels, la province des Moluques, où se trouve la langue Hitu, a également d'excellentes destinations touristiques. Quelques exemples de lieux à visiter aux Moluques sont la plage Ora, la place Ngur Bluat, la ville Tual, la forteresse Amsterdam et le gong de la paix mondiale. Aux Moluques, les visiteurs peuvent trouver un endroit pour se reposer, soyez les yeux avec de beaux paysages et ajoutez les connaissances historiques. Le nombre de locuteurs de la langue Hitu diminue chaque année. Si on le laisse, la langue Hitu sera bientôt atteinte. Cependant, le gouvernement indonésien ne reste pas silencieux. Grâce à l'Agence pour le développement des langues du ministère et de l'éducation et de la culture, le gouvernement continue de revitaliser le langage Hitu ensemble avec la communauté Hitu. Voici quelques exemples de mots dans la langue Hitu. Orosila, Orosila. En français, keller, saatli, saatli. En français, maintenant, kahu, kahu. En français, neuf, husalima, husalima. En français, quinze, waktu, waktu. En français, montre, manisa, Manessa. En français, exact. C'est l'exemple de conversation dans la langue Hitu. C'est une conversation entre Leimena et Nuku. Leimena demande l'heure à Nuku. Leimena, Orosila Nuku. Orosila Nuku. En français, maintenant, quelle heure Nuku? Nuku, ape yau alahime. Ape yau alahime. En français, laissez-moi voir d'abord. Saatle orosasiwa kahu menit husalima. Saatle Orosasiwa Kahu Menit Kusalima. En français, maintenant c'est 9h15. Lemena, iyo ya waktu e salalu manisa. Iyo ya waktu e salalu manisa. En français, est-ce que votre montre est exacte? Nuku, bien sûr, ma montre est toujours exacte. Lemena, terima kasih. En français, merci. Si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-vous à voi@voinews.id. Je répète, voi@voinews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia. Chers amis, c'était le programme Ma langue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Merci à tous et à la semaine prochaine.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Chers amis des quatre coins du monde, bonsoir et comment allez-vous? Nous espérons que vous soyez en bonne santé. Vous écoutez notre programme musical de la Voix d'Indonésie, l'émission en langue française. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanteuse connue indonésienne, Christine Natalina Panjaitan, ou plus connue avec le surnom Christine Panjaitan. Vous vous souvenez d'une chanson intitulée « Dites-moi honnêtement » Pour ceux d'entre vous qui se souviennent encore, bien sûr, vous reconnaissez encore la chanteuse qui l'a popularisée. Christine Panjaitan n'est pas un nom étranger dans l'industrie de la musique indonésienne. Son nom était populaire à travers une chanson « Dis-moi honnêtement » qui est chantée ou popularisée par les autres chanteurs jusqu'à présent. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée « Dis honnêtement » chantée par Christine Panjaitan. Bonne écoute.
Apa mungkin kita bersama?
Secrétaire, c'était la chanson de Christine Panjaitan intitulée « Dis-moi honnêtement ». Il y a longtemps que son beau visage n'est pas visible dans la télévision, si bien que les gens pensent qu'elle a retiré dans l'industrie de la musique en Indonésie. Mais Christine l'a refusé. Elle a admis qu'elle chante encore activement dans divers programmes, soit off-air ou on-air. Aux années 1980, Christine Panjaitan était devenue l'une des chanteuses pop mélancoliques plus célèbres en Indonésie. Bon, chers auditeurs et auditrices, voici la deuxième chanson de Christine Panjaitan intitulée « Je l'ai dit ». Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse, Christine Panjaitan. Le dernier album de Christine Panjaitan, publié en 1998, intitulé « Je t'aime ». Bien que cet album était moins succès au marché, mais il paraît la présence de Christine était encore sentie par ses amateurs. Christine est en train d'attendre actuellement un producteur qui veut lui faire un album pour qu'elle puisse traiter le manque de ses amateurs. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici donc les deux dernières chansons intitulées « Pour maman et vous, lui et moi ». Bonne écoute et à bientôt.
Di sisiku.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.